Actu SF, les podcasts.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être aussi nombreux. Donc je suis Azahar Kaladbari, je suis journaliste à Science et Avenir. Et bien j'ai le plaisir de recevoir quatre spécialistes, spécialistes en tout, hein, on n'a pas dit spécialistes de l'espace. Alors, j'ai Christophe Lasseur à côté de moi.
Bonsoir.
Qui est à l'ESA et qui est responsable du projet Mélissa. On va en parler bientôt. Ensuite, Marion Montaigne, qui vous connaissez sûrement sa BD dans la combi de Thomas Pesquet. Donc, elle a vécu pendant plus d'un an, non pas avec Thomas Pesquet, mais en le suivant. Voilà. Ensuite, j'ai Didier Schmitt, qui est médecin, qui a travaillé aussi à l'ESA et à l'Université de l'Espace. Et puis, enfin, Andreas Herpart, qui est auteur de science-fiction. Alors, pour introduire notre débat, on va tout de suite se projeter dans un futur, en fait, pas tellement lointain, parce que les agences spatiales, à la fois la NASA, mais aussi l'ESA, parlent déjà de villages lunaires, parlent déjà de stations qui seraient aux abords de la Lune, comme une sorte d'arrière-base pour aller vers Mars, et donc entreprendre des voyages. Par ailleurs, on a, comme vous le savez, depuis 1995, on a presque 4000 planètes extrasolaires qui ont été découvertes, et parmi ces planètes, eh bien, nous avons Proxima B, qui est qui a 4 années-lumière, en fait, qui fait partie du système de Proxima du Centaure, et on peut aussi dans les récits de science-fiction, mais aussi dans les idées extrêmement audacieuses, envisager peut-être d'entreprendre un voyage et d'y parvenir. Alors, du coup, pour voyager, il faut quand même que l'on puisse dormir, manger, être à l'aise, quoi d'autre, pouvoir jouer de la musique, travailler, des tas de choses. Et on va envisager quelles sont les contraintes que ce voyage spatial va nous poser. Donc je commence par vous, Christophe. Donc, il y a d'abord, bien sûr, la pesanteur, il y a les radiations, il y a des problèmes d'énergie. Et puis, surtout, lorsque l'on envoie un objet ou une charge utile, on va dire, dans l'espace, le coût est extrêmement élevé. Donc, on essaye de réduire comme on peut le coût de cet envoi. Alors, parlez-nous du projet Mélissa, son but, son objectif, et puis comment est-ce qu'on s'y prend pour réussir ? C'est vraiment un vrai challenge.
Alors, l'astronaute, comme l'humain sur Terre, il a besoin d'oxygène, il a besoin d'eau et de nourriture. Et ça représente à peu près 5 kilos par personne et par jour, sans douche, sans hygiène, juste le minimum pour rester en vie. Alors, avec les performances des lanceurs actuels, une mission vers Mars, c'est à peu près 1000 jours. Si vous faites le calcul, pour un équipage de 6 personnes, ça vous fait 30 tonnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on met tout ça sur la fusée aujourd'hui, elle ne décolle pas. Donc, la première difficulté, c'est de réduire ses masses. Et réduire ses masses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire utiliser tous les déchets de la mission, tous les déchets organiques, et essayer de reproduire de l'oxygène, de l'eau et de la nourriture. Alors, sur l'eau et sur l'oxygène, on peut utiliser des techniques assez conventionnelles. On le fait déjà en partie sur la Station Spatiale Internationale aujourd'hui. Mais le vrai challenge vient avec la nourriture. Parce que là, vous avez une diversité de molécules à produire, et on ne sait pas le faire autrement qu'avec des procédés biologiques, que ce qui soit bactérien ou que ce soit des plantes supérieures. Donc on est vraiment en train de développer ce qu'on pourrait appeler un écosystème artificiel avec une vision d'ingénieur. Ça ressemble plus à des tuyaux et des bouteilles qu'un écosystème tel qu'on peut l'imaginer au sol. Et là, on va essayer effectivement de recycler tout de façon à pouvoir cultiver des plantes. Et c'est ces plantes qui vont produire l'eau, l'oxygène et la nourriture.
Alors, cette eau vient d'où? Alors, et comment on plante?
Voilà. Alors, l'eau, elle peut venir de l'urine, bien sûr, c'est la première source, effectivement. Et puis après, il y a plusieurs façons de le traiter. Soit vous passez par des membranes. Aujourd'hui, sur la station, on fait bouillir et on récupère l'eau, mais tout le reste de l'urine est perdu. Donc ça fait un certain nombre de compositions dont on aurait besoin de recyclage total. Et comment on plante? Il faut toute une stratégie. Effectivement, on n'imagine pas mettre des pommiers, des poiriers. On est vraiment sur des choses assez basiques, si je puis dire, la tomate, la betterave. Et effectivement, il faut calculer les stratégies. Est-ce qu'on utilise cette plante? Quand est-ce qu'on la plante? Est-ce qu'elle est dans la même serre que le blé? Et ainsi de suite. Donc il faut vraiment regarder tous ces aspects. Est-ce qu'on a besoin de frigidaire? Est-ce qu'on a besoin d'un cuisinier? Le blé, est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il produit aussi beaucoup de déchets, mais il est très complet, très riche au niveau nutrition. Enfin, il faut regarder de façon ce qu'on appelle les aspects système, toute la globalité des challenges.
Vous m'aviez dit avant, justement en discutant avant, que pour des petits séjours, on partait en fait avec la nourriture qu'on pensait consommer.
Oui, absolument, parce que si la machine qui recycle est plus lourde que ce que vous voulez embarquer, ça ne fait pas sens. Donc si par exemple vous avez besoin de produire 100 kg d'oxygène et que votre machine fait 300 kg, c'est mieux d'emmener directement l'oxygène. Donc on sera toujours confronté à ce challenge qu'est la masse, parce que c'est vraiment le driver primordial des missions spatiales.
Donc à partir de quelle durée est-ce qu'on envisage ce type de...
Alors, sur l'oxygène CO2, on est à peu près à 80 kg par personne, vous voyez, sur la machine. Donc vous êtes facilement, vous voyez qu'à partir de 100 jours, ça commence à faire sens. Sur l'eau, ça fait presque sens dès les premiers jours, parce que les eaux de condensat sont peu polluées, et ainsi de suite. Vous êtes aux alentours de presque 3 kg par jour et par personne. Donc ça, là, ça fait sens assez vite, parce que les technologies sont assez simples, entre guillemets. Mais par contre, effectivement, sur la nourriture, là, vous êtes plutôt sur des missions d'au minimum un an, pour que ça puisse commencer à faire sens, même si vous n'êtes pas encore à 100% du régime alimentaire.
D'accord. On va revenir justement au projet Mélissa qui est vraiment un challenge pour ces longues durées. Alors Marion Montaigne, vous avez passé du temps avec les astronautes. Racontez-nous ça.
Oui, enfin oui. J'ai eu la chance de rencontrer Thomas Pesquet fin 2015. Et il commençait un peu à être connu du grand public. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, quand petit à petit, je lui ai demandé si on pouvait faire une BD. Moi, je trouvais ça intéressant, un astronaute. Ce qui m'intéressait, c'était l'astronaute, pas la célébrité que c'est devenu. Mais quand je lui ai demandé si on pouvait expliquer son métier, il a été assez partant. Je crois qu'il voulait qu'on montre que c'était dur, quoi. Enfin, je pense qu'il, toute la journée, il entend des gens qui lui disent « Vous êtes formidable, vous êtes un surhomme, vous êtes trop fort ». Bon, il est assez balèze, mais je pense que des fois, il veut aussi qu'on montre qu'il y a du boulot derrière, que c'est très technique, que c'est très lourd, qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent pour l'aider, c'est aussi physiquement... C'est aussi assez costaud à encaisser parce qu'on est des êtres faits pour évoluer avec de la gravité et on est la pesanteur n'est pas toujours notre ami qui prennent cher.
Pourtant, ils sont toujours partants pour repartir.
ça c'est une expérience, je pense, qui est un peu personnelle chez eux, qu'ils ne formulent pas tous plus ou moins. J'ai l'impression que Lucas, il en parle mieux de l'émotion qu'il a eue. Thomas, peut-être qu'il a besoin, peut-être moins expressif, mais je pense que ce n'est pas du tout anodin comme sensation. Vous soulevez des masses, vous ne les soulevez même pas, quoi. Avec le petit doigt, vous les transportez. Vous voyez la Terre depuis 400 km. C'est une expérience assez hallucinante de voir là d'où vous venez, seul au milieu de l'univers. Je pense que ça doit être assez transcendantal. Ouais. Mais chacun le digère différemment, je suppose.
Alors, justement, je me tourne vers Didier Schmidt. Est-ce que, du point de vue de la médecine, quelles précautions on doit prendre? J'imagine que l'entraînement est très long et très suivi. Et est-ce que, pour des séjours longue durée, dans la perspective d'aller bien au-delà de la station spatiale, est-ce que l'on envisage d'autres types d'entraînement?
Effectivement, pour aller dans la station spatiale, bon, les choses ont un petit peu changé ces dernières années, puisque maintenant les équipages passent jusqu'à un an. Donc ça, c'est déjà un défi supplémentaire par rapport aux 6 mois. Alors ce qui se passe, effectivement, c'est qu'on les surentraîne un peu au début pour qu'ils perdent le moins possible leur capacité physique. Vous savez certainement bon, les choses classiques, hein, la fonte musculaire, la perte de calcium des os, les troubles neurosensoriels, etc. Tout ce qui est cardiovasculaire qui se désadapte, ça c'est assez classique, mais les choses qu'on a trouvées beaucoup plus récemment, c'est une atrophie partielle de certaines zones du cerveau qui sont assez significatives, qui seraient certainement dues à l'œdème permanent de la tête, puisque les fluides ont tendance à remonter dans le corps, puisqu'il n'y a plus la gravité pour les attirer vers le bas, qui donne des conséquences assez évidentes sur... quasiment 80% des astronautes ont des problèmes de vue après le vol. Et on pense que tout ça s'est relié. Donc, il y a maintenant des programmes de recherche assez importants pour voir exactement ce qui se passe, puisqu'il n'est pas question d'envoyer quelqu'un sur Mars, sur des trajets assez longs, des séjours longs, sans comprendre exactement ce qui se passe et pouvoir pallier tous ces phénomènes qui sont aujourd'hui inexpliqués. En plus de ça, bon, le cerveau, je viens d'en parler, il est aussi sensible, beaucoup plus sensible en fait, aux radiations que le reste du corps. Donc les dernières études qui ont été faites sont assez alarmantes aussi. Même avec des niveaux de radiation relativement faibles, il y a des pertes de mémoire, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très sympathiques. Donc il y a encore pas mal de travail pour essayer d'optimiser donc, les trajets vers Mars, sur Mars et le retour. Alors, il faut savoir que pour aller sur Mars avec une propulsion classique qu'on prévoit aujourd'hui, il faut jusqu'à 9 mois. Et après, c'est assez compliqué à expliquer, mais bon, vu que Mars tourne 2 fois moins vite que la Terre autour du Soleil, il n'y a pas le choix. Soit vous restez 40 jours sur Mars, et si vous loupez le coche, il faut rester 500 jours.
Ça fait une sacrée différence.
Ça fait une grosse différence. Oui. Et donc après, ce sont des choix, c'est-à-dire est-ce qu'on... Pour les premières missions, est-ce qu'on laisse l'équipage 40 jours, sachant qu'ils ne vont pas pouvoir faire énormément de choses? Ou d'emblée, on se dit, bon ben, on installe une vraie base, on les fait travailler pendant 500 jours et après on les ramène.
Lorsque vous expliquez qu'ils ne pourront pas faire beaucoup de choses, est-ce qu'il y a un temps d'adaptation, justement, lors de l'arrivée? Est-ce que, par exemple, il y a une semaine où on est complètement HS et on ne peut rien faire?
Oui, moi j'ai pas mal travaillé à la cité à Moscou pour le retour des astronautes, donc la cité des étoiles. Et donc je les ai vus, moi, à peu près 12 heures à 24 heures après le retour. Bon, ils sont pas dans un bel état. Hein. Donc là, généralement, les caméras, et puis on les filme pas trop. Donc effectivement, il y a un temps d'adaptation qui est très variable en fonction des individus. Il y en a qui perdent jusqu'à 20% de masse osseuse. Il y en a qui n'arrivent pas à se mettre debout pendant plusieurs jours. Donc, on est chacun différent. Donc, eux aussi, même s'ils sont sélectionnés pour être physiquement au top, il y a quand même des variations assez importantes physiologiques chez chacun. Donc, si on transpose ça maintenant, malgré le fait qu'ils font évidemment plus que 2 heures d'exercice par jour, donc malgré ça, ils sont déconditionnés. Il y a un principe très simple, hein, si on n'utilise pas certaines fonctions du corps, on les perd. Donc quand vous avez quelqu'un qui est alité pour une pathologie quelconque, pendant 6 mois, il ne va pas se remettre debout et jouer au tennis tout de suite. Hein, ça, on le comprend, bah, c'est pareil pour les astronautes. Donc si on extrapole maintenant à une mission martienne, quand ils vont atterrir, d'abord il faut voir comment on va les faire atterrir, parce qu'ils vont se prendre plusieurs fois donc plusieurs fois le poids de leur corps. Donc là, déjà, il faut voir comment on va les faire résister. Et une fois qu'ils sont sur place, il va quand même falloir qu'ils soient un petit peu rentables, entre guillemets, pour les programmes. Donc il faut qu'ils soient le plus adapté possible tout de suite.
Mais est-ce que dans les projets futuristes des agences ou alors dans les discussions, on prévoit l'installation d'une base avant l'envoi de... Ou alors c'est à cette première génération la tâche de construire la base?
Oui, bon, avec les avancées technologiques sur les impressions 3D, etc., on peut prendre du régolithe et faire déjà des constructions à l'avance avec de la robotique, ça c'est clair. Néanmoins, ça veut dire une chose, que si vous mettez une base quelque part qui n'est pas mobile, ça veut dire que quand vous allez faire arriver l'équipage, il faut un atterrissage de très haute précision. S'ils sont à 10 km, c'est pas pareil que s'ils sont à 500 mètres à côté, ou 10 km, ou bien plus. Donc si on rate l'atterrissage, là, il y a un souci. Donc il y a ces deux problèmes. Donc soit, en général, je n'ai pas vu de concept où on fait atterrir les astronautes en même temps que le système de support vie, etc. C'est toujours des capsules avec des réentrées atmosphériques gradués, etc., qui n'ont pas les mêmes besoins en haute technologie que pour faire atterrir de ce qu'on appelle le cargo, hein, en sens technique. Mais dans ce cas, il faut effectivement être absolument certain qu'on va atterrir au même endroit. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est avoir plusieurs atterrisseurs et essayer de faire atterrir l'équipage dans un environnement relativement proche avec une mobilité. Donc il est hors de question d'envoyer les astronautes sans une propre mobilité minimale.
Donc ce qui suppose un robot pour se déplacer. Et donc j'imagine que ce genre de facilité en fait peut être envoyé par des parachutes ou de manière totalement robotique.
Oui, absolument. Bon, déjà, il y a plusieurs robots qui sont sur Mars. L'Agence spatiale européenne va envoyer ExoMars, donc le rover martien européen en 2020, qui va lui forer à 2 mètres de profondeur pour chercher des traces de vie, etc. Donc on aura déjà cette expertise en Europe. Les Américains l'ont depuis pas mal d'années. Mais on ne va être que deux, hein, c'est-à-dire les Américains ont la techno, nous on essaie de l'avoir.
C'est quand même quelque chose. Les Chinois arrivent aussi sur Mars en 2020.
Oui, alors il faut voir après quel type de technologie et quel type de rover, parce que bon, il y a rover et rover, quoi. Donc si vous voulez avoir un déplacement de personnes, c'est pas la même chose d'avoir un petit rover grand comme la table qui va aller fouiller les alentours, même avec une autonomie assez grande, puisqu'il y a des isotopes radioactifs qui permettent de générer l'énergie. Donc c'est pas pareil que d'avoir un petit 4x4 ou même un plus grand 4x4 pour aller déplacer des personnes avec une autonomie. Christophe peut vous en parler plus. Donc il y a aussi un problème d'autonomie des personnes dans des véhicules pour aller plus loin. C'est pas la peine de les mettre dans une base et ils ne peuvent que circuler autour de la base. Il faut vraiment qu'ils puissent aller faire des dizaines de kilomètres pour aller explorer plus loin.
Alors justement, cet aspect, on voit bien que les agences préparent ces programmes. Je me tourne vers Andreas. Est-ce que dans les... Et puis l'autre donnée du problème, c'est que en plus des agences gouvernementales, aujourd'hui, l'espace est devenu aussi privé parce qu'il y a des entrepreneurs privés qui opèrent. Est-ce que dans la science-fiction... comment est-ce qu'on prend ça? Est-ce que justement c'est quelque chose qui est épatant ou on avait prévu ça depuis très longtemps et puis on fait avec?
Bon, comme auteur de science-fiction, on profite bien sûr du travail des gens comme ça. Et en plus, il y a une différence si... la question, c'est le degré de réalité qu'on veut dans un roman. Si on a un roman qu'on veut très réaliste, il faut faire beaucoup de recherches. Si on construit un empire galactique, une space opéra, on peut inventer n'importe quoi. Toutes les choses marchent tout simplement, comme les automobiles d'aujourd'hui. On peut voyager dans l'espace, on a de gravitation artificielle, et, on peut commander Earl Grey Hot d'une d'une machine et tout ça, comme dans le Star Trek movies. Ça dépend vraiment du type de science-fiction qu'on veut écrire. La science-fiction, le hard science fiction, c'est plutôt le type qui va dans tous les détails, qui veut. Moi, j'ai écrit un roman qui est un peu dans cette genre, la station solaire. J'ai écrit il y a plus de 20 ans maintenant, avant le SSI. J'ai fait des recherches comment ça marche avec les douches dans l'espace et tout ça.
Donc, en fait, vous suivez de près et vous vous servez comme source d'inspiration tout en pouvant vous affranchir des contraintes qui sont les leurs.
Suivre, c'est trop. Si j'ai une idée pour une histoire comme ça, je commence à rechercher. J'écris des magazines et des articles. Et j'ai fait pas mal de recherches sur Internet pour trouver l'état des sciences. Et après, je décide quoi j'utilise. Il y a des détails qui dérangent une histoire, bien sûr.
Il y a une question que je voulais aborder avec vous, parce qu'il y a bien sûr l'aspect physique et puis il y a aussi la santé mentale. Est-ce que, je pense que chacun, vous allez pouvoir répondre d'une certaine manière, est-ce qu'on revient d'une expérience spatiale totalement transformée? Alors, je sais que vous, Monsieur Schmitt, vous avez fait un séjour en Antarctique. Peut-être c'est une expérience que vous avez vécue, même si l'Antarctique, par certains, c'est pas vraiment l'espace. Mais quel, du point de vue psychologique, quelle réponse est-ce que vous pouvez apporter? Est-ce qu'on en sort dévasté ou alors revigoré ou alors profondément changé sur la condition de l'humain, en fait?
Alors, pour les astronautes, c'est toujours difficile à dire parce que comme ils veulent toujours revoler, il est très difficile de leur poser, on peut leur poser la question, mais ils répondent assez souvent à côté. Tout était formidable, merveilleux, etc.
C'est-à-dire, est-ce qu'ils nient les difficultés?
Oui, parce qu'en fait, n'importe quel anicroche, ils pensent que ça pourrait être néfaste pour une sélection ultérieure, etc. Donc c'est un sujet difficile. Alors effectivement, moi j'ai fait quelque chose d'assez particulier. Non seulement je suis allé en Antarctique, mais j'ai fait un raid à l'intérieur du continent pendant 11 jours avec des véhicules motorisés. Avec évidemment comme contrainte que personne ne pouvait aller nous rechercher si jamais il y avait un souci. Donc ça, c'est assez délicat. Donc on était six personnes. Et en fait, c'était pour ramener du ravitaillement vers la base Concordia, qui est la base la plus isolée au monde, donc qui est à 3200 mètres d'altitude et à plus de 1100 km à l'intérieur des Terres. Alors effectivement, déjà, quand on arrive sur le continent, c'est... Vous disiez, c'est pas l'espace, mais c'est presque ça. C'est parce que, en fait, l'Antarctique, dans le programme spatial dont je m'occupais, on appelle ça White Mars. Donc, ça veut dire c'est Mars, mais en blanc. Et c'est effectivement ça. C'est-à-dire, dès qu'on arrive, on est, et puis j'ai vu ça avec d'autres collègues, on est sur notre planète. Donc, ça veut dire qu'on fait quasiment abstraction de ce qu'on a vécu avant, etc. Parce qu'on est tellement submergé par la beauté de l'environnement, déjà, même sur la côte, avec les icebergs, etc. Et ensuite, ce challenge de devoir survivre, quoi qu'il arrive. Et on a une mission, il faut amener 150 tonnes de ravitaillement. Donc, on est complètement accaparé. C'est-à-dire, le cerveau ne travaille pas, ne pense pas à autre chose. Donc, je pense que dans l'espace, ça doit être à peu près pareil. Sauf que nous, on n'avait pas... des activités minutées comme les astronautes, ils savent exactement ce qu'ils vont faire, on leur dit exactement chaque minute ce qu'ils ont à faire, mais je pense que c'est relativement analogue, c'est-à-dire qu'on est transporté ailleurs. Et j'ai beaucoup discuté avec les médecins de base qui sont restés, eux, pendant 12 à 14 mois et d'autres collègues. Le plus dur pour eux, c'est de revenir, c'est de se réadapter à un monde compliqué, parce qu'eux, ils étaient soit donc, en périphérie, donc les bases sont relativement grandes, entre guillemets, il y a 25 personnes. Concordia, il n'y a que 12 personnes. Quand ils reviennent, ils ont vraiment du mal à se réadapter à la complexité de la société.
C'est-à-dire, en fait, le fait d'être soucieux de sa survie, finalement, fait que les choses sont plus simples. On s'extrait de la complexité du quotidien.
Oui, alors bon, moi j'ai eu la chance évidemment d'être avec un équipage extrêmement évidemment compétent, mais sympathique, avec une cohésion de groupe. Bon, ça c'est un peu le hasard, ça peut plus ou moins bien se passer. Bon, moi il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, puisque bon, j'y suis resté que 5 semaines, bon, les autres restent entre 12 et 14 mois, c'est différent. Mais ça veut dire que n'importe quel petit problème peut devenir assez important, parce qu'on ne sait plus tout de suite avec qui parler, etc. Plus le groupe est petit, plus l'explosion peut être facile. Et donc, quand il y a des choses positives, elles deviennent très positives parce qu'on le vit ensemble. Une chose négative devient très négative assez rapidement parce qu'on n'arrive pas à sortir du cercle vicieux de cette problématique. Donc, c'est des problèmes vraiment psychologiques qu'on retrouve absolument dans les missions spatiales, mais dont on ne parle pas beaucoup.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'aspect, justement, impact psychologique après le retour ?
Je crois qu'il faut bien comprendre qu'un astronaute qui vole, c'est presque 7 ans d'effort avant. Hein. Entre le début de la sélection finale, l'entraînement, c'est 7 à 10 ans d'effort. Déjà, vous rendez compte que c'est comme exploit. Après, effectivement, ils sont confrontés à quelque chose que je crois que le terrien a du mal à comprendre, cette sensation absolument incroyable. Ils ne sont pas si nombreux à avoir été là-haut. Donc quand ils reviennent, effectivement, ça semble assez exceptionnel. Et ils n'ont souvent qu'une envie, c'est retourner. Mais je pense qu'aussi, les terriens que nous sommes, les approchons comme des héros. Donc je pense qu'il y a aussi une évolution psychologique qui est due au positionnement à la faune, aux experts, qui en fin de compte, eux, rêvent aussi un petit peu et se comporte d'une façon particulière. Donc, je dirais qu'il y a des astronautes qui le vivent très bien, qui sont restés extrêmement simples, et on en connaît bien en France, mais il y en a d'autres parfois qui évoluent un petit peu différents. Ouais, ça, c'est important.
Vous avez vu, est-ce que vous avez remarqué justement ce genre d'impact ?
Moi, j'ai vu Thomas Pesquet 2 semaines après son atterrissage. Je l'ai trouvé pâle.
Mais vous l'avez trouvé pâle ?
Oui, palichon quand même un peu. Non, mais c'est surtout, moi je me disais, ça clignote, prend des vacances quoi, au-dessus de sa tête. On se dit, il faut qu'il se repose. Mais non, c'est justement le moment où en plus, non seulement il faut revenir d'une planète où tout était différent, mais avec la célébrité en plus, où là en plus, beaucoup de gens veulent vous voir, vous sollicitent, tous les journalistes sont là, des auteurs de BD qui vous posent des questions bizarres. Donc j'ai trouvé que ça devait être extrêmement dur. En plus, j'avais vu l'emploi du temps, c'est un cobaye, donc il doit encore faire des tests qu'il a encore fait avant la mission, pendant, et ils la refont après. Donc des fois, c'est resté 3-4 heures dans une chaise à se faire électrocuter les muscles. Donc c'est un peu... c'est pas... Et pour la petite histoire, c'est qu'aussi le soir, nous, on prenait tous une bière, mais pas lui, parce que le lendemain, il avait examen. Il rentrait aussi en taxi pour pas rentrer en voiture et faire n'importe quoi, c'est au cas où les réflexes n'iraient pas bien. Donc c'est plein de petites choses auxquelles on pense pas et qui fait qu'ils reviennent pas dans une vie normale. Et aussi, je pense que le planning, à la minute près, qui est très calé, c'est au retour, ça continue un peu, mais ça doit être différent avec.
C'est extrêmement lourd
avec
à supporter.
Oui, avec. Bah ça, il faut leur demander à eux, mais moi, j'aurais été claquée. Moi, je serais partie. Enfin, je pense qu'ils ont eu des vacances, mais plus tard, encore vraiment tard. Ouais.
Très... Alors, Andreas, est-ce que vous donnez un profil psychologique très particulier à ceux qui entreprennent un long voyage dans l'espace ?
Alors, je me dis, ce serait un très bel sujet pour un roman. Pas la mission, mais rentrer de la mission et la vie après. Je ne sais pas si c'est déjà écrit un roman comme ça. Ce serait très intéressant. C'est un peu comme les gens qui rentrent d'une guerre qui a transformé
leur
mentalité dans une autre manière, bien sûr, parce que bon, une mission, c'est pas une guerre, mais c'est aussi une situation extrême. Je trouve ça fascinant, cet aspect de facilité et la complexité de notre vie quotidienne. C'est vrai, oui. C'est même si on rentre d'un voyage, des rencontres avec des lecteurs. On est concentré sur des rencontres, on parle, on discute, on répond à questions et on rentre. Normalement, c'est une douzaine de lettres qui sont arrivées, 50 emails qui font être répondus tout de suite. Il s'agit des taxes et des impôts et des choses comme ça. Et on dit, bah, le voyage était, dans un certain sens, plus facile que notre vie normale.
Finalement, les problèmes du quotidien pèsent plus que l'éloignement et les... ça pourrait être comme ça. Alors, je voudrais qu'on... se projette maintenant dans le, non seulement dans un futur lointain et dans les récits de science-fiction, mais dans ce que on prépare déjà dans les cartons, parce que parfois ça ressemble un peu à la science-fiction. Par exemple, cette station lunaire, les modes de propulsion. Bon, on a parlé de la propulsion ionique, mais on essaye de justement d'explorer d'autres types de propulsion. On en est où de tout ça? Est-ce que, par exemple, une première base martienne, allez, à votre avis, ça sera quand?
Donner des dates, c'est toujours extrêmement difficile. Surtout qu'aujourd'hui, l'objectif international, les discussions qui ont lieu là tout de suite, la semaine prochaine encore à Houston, c'est vraiment l'orbite lunaire. Donc, c'est-à-dire une étape avant Mars, avec, comme l'a mentionné Didier, un vrai problème qui est les radiations. Donc, pour la première fois, si on oublie les missions Apollo qui étaient très courtes, pour la première fois, on veut rester sur des durées au minimum, je dirais, d'une semaine, mais en allant vers un mois et plus, en dehors des ceintures de Van Allen, c'est-à-dire les ceintures qui nous protègent des radiations ici sur Terre. Et ça, c'est l'objectif aujourd'hui des discussions, de construire cette toute petite station, hein, beaucoup plus petite que la Station Spatiale Internationale, pour des équipages plus réduits, probablement de l'ordre de 3-4, pour essayer de comprendre.
Et ça, donc c'est 3-4 personnes uniquement.
3-4 personnes, mais les premières missions, c'est une semaine. On revient sur Terre, on retourne un an après, peut-être 15 jours, oui, avec un objectif final d'un mois maximum, tant qu'on n'aura pas résolu cette problématique des radiations. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Puis il faut aussi valider toutes les technologies. On ne va pas partir vers Mars, même sur de la propulsion rapide, hein, qui sera quand même de quelques mois, tant qu'on n'aura pas validé les systèmes de support vie, qu'on n'aura pas validé un certain nombre de choses, de la propulsion, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment l'objectif en cours tout de suite. C'est ce qu'on appelle le Deep Space Gateway. C'est le pas entre les deux. Alors, en fonction de ça, et puis des évolutions politiques et économiques, vous mettre une date pour Mars, je ne suis pas capable de le faire, soyons honnêtes.
Didier, est-ce qu'il y a une volonté politique en Europe pour cela? Est-ce que vous pouvez nous faire un point, par exemple, entre la volonté américaine, la volonté politique, et puis, je ne sais pas, européenne? Et puis, quels sont les autres candidats qui se profilent? Parce qu'on parle beaucoup de la Chine, bien sûr.
Oui, bon, évidemment, ça devient un problème géopolitique. C'est pas que le challenge ou le défi technologique. C'est-à-dire que la volonté existe en Europe de faire partie mais pas forcément d'être leader, parce que les budgets alloués proportionnellement à notre économie sont largement inférieurs à ceux des États-Unis. Ça, c'est du point de vue historique, c'est comme ça. Évidemment, les Chinois veulent dominer l'économie et même, pourquoi pas, la géopolitique à échéance de 2050. Il est clair qu'ils le font aussi dans le spatial. Donc, ils ont rattrapé depuis le milieu des années 90, ils ont un peu rattrapé les Américains sur certains points. C'est encore loin derrière pour l'instant, mais la lancée et le projet politique est là. Ils vont avoir leur propre station 100% chinoise d'ici 3, 4, 5 ans. Donc, ils sont assez proches. Donc, c'est clair que ça fait réagir les Américains, puisqu'il y a aussi des projets chinois de faire une base chinoise. Et évidemment, l'ultime mission vers Mars, ils ne le cachent plus, elle est aussi dans les cartons chez eux. Donc, c'est un petit peu comme à l'époque de l'URSS et des États-Unis. La course à l'espace, elle est encore présente, et elle sera encore plus présente avec les Chinois. L'Europe se positionne toujours en une espèce de neutralité. On veut bien travailler avec tout le monde. Alors, c'est plus ou moins difficile en fonction des partenaires. Il est clair que, pour ce qu'a mentionné Christophe, pour le Deep Space Gateway, donc ça, c'est clair que les Européens font partie, vont faire partie, puisque le module américain qui aura 4 astronautes à bord, qui va aller vers l'orbite lunaire, sa propulsion est déjà fabriquée en Europe. Donc déjà, on a un premier élément. Il y a 2 ou 3 autres éléments, comme la propulsion ionique de la station ou des modules d'habitation qu'on sait faire en Europe. Ce sont des négociations qui sont en train de se faire avec les États-Unis. Et la décision finale va être prise en novembre l'année prochaine, donc l'an prochain, lors d'une réunion ministérielle des membres de l'Agence spatiale européenne. Mais très clairement, on va faire partie de l'exploration. Comment on fait partie de la station spatiale à hauteur de 8 et quelques pourcents? Je pense qu'on va peut-être même augmenter notre participation à la station circumlunaire, mais jamais en étant leader et jamais en se positionnant comme soit les États-Unis ou soit la Chine pour essayer de dominer quelqu'un.
Donc être présent sans être leader. D'accord.
Oui, oui. De toute façon, du point de vue budgétaire, il n'y a pas le choix.
Il n'y a pas le choix. Il y a un aspect qu'on aborde rarement, c'est les conflits humains. Dans une sorte de ce milieu confiné où les astronautes sont ensemble, et puis sur les voyages dans l'espace. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, Andreas, je ne sais pas, est-ce que les conflits humains pourraient donner lieu à des événements, par exemple à des tournures, à des changements de paradigme dans vos récits? C'est le conflit humain, par exemple, lorsque vous renfermez un certain nombre de personnes ensemble, le fait qu'ils ne s'entendent pas et puis que finalement ils se tapent sur les uns les autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez?
Je ne pense pas. C'est certainement difficile d'être enfermé avec des autres, mais bon, ils vont être préparés psychologiquement pour ça. On va essayer. Et il y a déjà eu des expériments en Russie où des trois hommes étaient enfermés pour plus de 2 ans pour simuler un voyage vers Mars. Et ça a marché. Alors,
bon, ils sont pas sortis. Ils sont sortis indemnes.
Oui, tous les trois.
Comment alors à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne, on aborde cette problématique?
Didier pourra vous en dire beaucoup plus, parce qu'il a été très actif sur ce sujet. Mais je crois qu'il y a une différence fondamentale entre la sélection qu'on a aujourd'hui et ses vols futurs. Aujourd'hui, l'astronaute, il a une confiance énorme, j'espère, dans toute la technologie qu'il utilise. Et il n'est pas leader, si vous voulez. Il est opérateur. Hein, comme on l'a dit, on l'éduque, on le forme, et il a les activités à la minute près. Si on part vers Mars, là, il n'y a plus de retour possible. Et il faut effectivement qu'il soit capable, en plus, de gérer ce stress, de comprendre comment ça fonctionne. Et là, je pense qu'il va y a, il y a effectivement une amplitude qui va accroître et qui aujourd'hui n'est pas encore considérée dans la sélection et la gestion du stress. Là, je pense que Didier peut compléter ce point.
Oui, bah c'est un petit peu comme le voyage en Antarctique. Si vous partez de l'Australie, comme j'ai fait, avec un mini brise-glace, vous vous occupez de rien. Tout est pris en charge, etc. Même sur la base, la première base, il n'y a pas de souci. Vous êtes nourri, logé, etc. Enfin, tout se passe bien. Si vous avez des choses à faire, il y a des protocoles, etc. Donc, tout va bien. Donc, ça, c'est la station spatiale en ce moment. Donc, effectivement, les astronautes sont un peu des exécutants. Enfin, un peu, ils se sont des exécutants. Et maintenant, si vous partez de la base Antarctique et vous êtes livré à vous-même et que, quoi qu'il arrive, vous devez vous débrouiller, là, ça change complètement. Là, vous devez prendre les choses en main. Et ce sera pareil pour le voyage martien, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être dépendants d'abord parce que, au bout de quelques mois, le message aller-retour, donc au maximum, vous aurez 18 minutes de message aller, 18 minutes pour le message retour. Donc déjà, on ne peut pas réagir en temps réel, alors qu'on peut en une seconde avec la station spatiale actuellement. Donc ça veut dire que déjà la psychologie, la sélection, tout ça, ça va être très différent. Il vaudrait mieux prendre des gens qui sont des sous-mariniers, par exemple. Parce que eux, c'est pareil. Ils doivent survivre sans communiquer. Il ne faut surtout pas communiquer pour ne pas localiser le bâtiment. Et donc, c'est plutôt cette psychologie-là qu'il faut. Des gens qui savent se débrouiller. Et ensuite, la technologie qui va avec, les imprimantes 3D, etc., pour pouvoir réparer n'importe quelle chose. Et c'est exactement ce qu'on avait sur le RAID en Antarctique. On pouvait quasiment, enfin il y avait des mécaniciens très performants et ils pouvaient quasiment réparer n'importe quoi. On avait les machines-outils, enfin on emmenait tout avec nous. Il fallait être complètement autonome. Et donc effectivement, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même entraînement.
Marion, est-ce que vous avez été bouleversée vous par cette expérience?
Oui, j'ai pas risqué grand chose.
Non, non. Mais quand même, est-ce que ça vous a marqué?
Oui, c'était c'était une expérience vraiment pour moi fantastique parce que c'est des métiers qui se rencontrent pas vraiment souvent artistiques et aussi techniques. Donc c'était pour moi extrêmement intéressant d'avoir accès à un milieu totalement inconnu. Donc moi j'étais un peu le regard du grand public. J'ai autant appris que ce que je raconte dans la bande dessinée, mais c'est une chance vraiment incroyable. En plus, j'ai pu rencontrer plein de personnes qui avaient des choses fascinantes à raconter, notamment un des Français, j'étais en train de penser à ça, qui est allé sur Mars 500, donc qui était enfermé.
Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est Mars 500?
C'était en Russie, je crois, je ne sais plus, dans les années 2000, oui, à Moscou. Il y a eu une simulation où ils ont enfermé, ils étaient combien, six hommes,
six personnes,
de nationalités différentes. Et donc, je pense qu'il raconte pas tout les difficultés, mais il racontait que lui, il dit, je pense qu'ils ont toujours conscience que s'il y a vraiment un problème, ils sont toujours sur Terre, et ça, c'est une dimension qu'on pourra jamais simuler vraiment des gens détachés. Quand il regarde par le hublot, il n'y a même plus rien, ce sera le noir complet. Donc, lui disait que ce qu'il faisait, enfin, je ne vais pas transformer ce qu'il dit, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il disait, vers la fin, il s'imaginait aller enfin dans une piscine, se baigner dans la mer ou des choses comme ça. Et il me disait, je pense que pour un retour, pour un voyage sur Mars, il faudra absolument que les gens se disent qu'ils pourront revenir, c'est ce qui leur fera tenir. Enfin, je ne sais pas si c'est possible de partir sans espoir de revenir, parce que j'ai aussi lu des articles où à un moment on disait il faut qu'on envoie des hommes qui seraient d'accord pour ne jamais revenir, qui meurent sur Mars, c'est hyper glauque, je ne sais plus qui avait dit ça. Et on a eu cette discussion-là où lui disait non, je ne pense pas, je pense que pour tenir, il faut avoir l'idée de pouvoir revenir un jour, sinon on ne tient pas. Mais ça, C'est philosophique, c'est une discussion philosophique, psychologie, psychiatrique, sans fin, quoi. Et on en fera presque l'expérience en le faisant.
Est-ce que la première génération est censée revenir ou pas ?
Alors, ça, c'est la différence fondamentale entre les grandes agences et les initiatives privées, si vous voulez. Donc, pour l'ESA, comme pour la NASA ou la JAXA, aujourd'hui, il n'y a même pas de discussion. On ramène nos astronautes. Et ça, ça veut dire que la prise de risque est limitée au maximum. Donc vraiment, tout est fait pour prendre les risques acceptables. Mais les initiatives privées, et finalement, il y a des grandes déclarations. On peut partir demain. Et si vous regardez les risques en face, ben, ça ne tient pas la route, quoi. Donc de notre côté, on ne se permettra pas de prendre des risques importants. Donc ça, c'est crucial, quoi.
Alors, je vois que l'heure tourne. Pour finir, je voulais vous poser juste une question. Qu'est-ce qu'il faut ? Quel verrou technologique il va falloir surmonter pour y aller ? Alors, est-ce que c'est un problème de volonté politique ou alors c'est un verrou technologique ? Qui veut répondre ?
Alors, il n'y a pas forcément qu'un verrou technologique. Après, ce sont des choix politico-technologiques. Les Russes viennent de tester un réacteur nucléothermique pour faire des voyages de très longue durée vers Mars. Donc, en fait, pour les raccourcir, hein, pour avoir beaucoup plus d'énergie, pour être beaucoup plus efficace. Ce n'est pas des nouvelles technologies, ça date déjà des années 70 aux États-Unis, on a déjà fait ça. Mais là, c'est vraiment des choix. Ce n'est pas forcément une rupture technologique, mais c'est un choix de stratégie technologique. Acceptabilité par l'opinion publique et ce genre de choses. Évidemment, l'équipage aussi, en sachant qu'on a un réacteur nucléothermique à quelques dizaines de mètres, c'est pas pareil que d'avoir une propulsion chimique classique. Mais bon, les sous-marins nucléaires existent depuis longtemps. Et puis, bon, je connais des sous-mariniers, ils ne se plaignent pas. Enfin, ils n'y pensent plus au bout d'un certain temps. Qu'ils ont un réacteur nucléaire pas très loin. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, évidemment, c'est tout ce qui est impression 3D, 4D, parce qu'ils font pouvoir réparer n'importe quel objet. Donc là, il s'agira simplement d'avoir la dernière technologie à bord pour pouvoir essayer de réparer ce qui ne va pas. Après, tout le reste, on le maîtrise. Alors, ce qu'il y a, évidemment, c'est les choix après pour l'atterrissage. L'atterrissage est compliqué. On peut soit faire une aérocapture, mais ça veut dire que les astronautes à bord vont peser 6 fois leur poids pendant 20 à 30 minutes, ce qui est énorme.
Est-ce que c'est tolérable du point de vue
aujourd'hui, ça ne le serait pas vraiment. Mais donc, il faut voir qu'est-ce qu'on met comme centrifugeuse à bord. Il y a des projets qu'on finance en Europe là-dessus depuis pas mal d'années. Donc après, ce sont des trade-offs, c'est-à-dire il faudra faire des choix en fonction des risques, en fonction des questions qu'on a encore. Le problème, c'est vraiment l'atterrissage. On a essayé deux fois d'atterrir avec des systèmes de mesure sur Mars avec des programmes européens. Deux fois, on a échoué. Les Russes, pareil. Donc la problématique, c'est d'atterrir. Alors, bon, Christophe disait, on va toujours ramener les astronautes, c'est vrai. Et l'autre problématique, c'est effectivement de les ramener. Ça veut dire qu'il faut amener à la surface la fusée qui va les remettre en orbite martienne, avoir en orbite martienne le vaisseau qui va les accueillir et qui va revenir probablement en orbite lunaire vers la station lunaire et ensuite repartir vers la Terre. Les éléments, on les a, mais mettre tout ça ensemble pour que tout fonctionne, donc là, il n'y a pas un verrou technologique, mais il y a un taux de fiabilité qu'il faut atteindre. C'est surtout ça le problème.
Et est-ce qu'il y a un problème d'acceptabilité du public aussi ?
Ah bah de toute façon, l'Agence spatiale européenne, la NASA, la JAXA sont des organismes financés par les citoyens du pays, hein, par vos impôts. Hein. Je vous en remercie d'ailleurs au passage. Et de ce fait, il y a effectivement une explication. Qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les risques qu'on prend ? Quel est l'intérêt ? Donc, on ne va pas, si on dit aux citoyens européens, bah écoutez, 30% du budget va partir dans cette mission spatiale parce qu'on veut être les premiers, je ne suis pas sûr que ça va être bien accepté. Je ne suis pas sûr non plus que si on dit, alors là je suis un petit peu futuriste, en disant on va modifier génétiquement l'astronaute pour qu'il résiste mieux, est-ce que ça va être aussi accepté ? Il y a des problèmes d'éthique Hein, je ne sais pas ce qu'on modifierait d'ailleurs, ça c'est une autre discussion. Mais vous voyez,
résistance aux radiations.
La résistance aux radiations. Ouais. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de choses comme ça. Mais moi, qui ne suis pas médecin, contrairement à Didier, je pense qu'un des points fragiles, c'est l'humain. Et c'est peut-être le verrou technologique qui aujourd'hui n'est pas encore assez levé.
Vous voulez dire l'humain dans sa psychologie, dans son acceptabilité,
dans sa globalité, le corps dans sa globalité psychologique et physiologique. Oui.
Très bien, on a peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Oui.
Bonjour.
Si vous pouvez.
Bonjour.
Ah, pardon. Oui.
Je vais peut-être un peu loin dans mes interrogations et dans mes projections, mais quand je pense à des vols habités de très longue durée, au début vous parliez de Proxy-B. Il y a souvent, je me pose la question d'une gestation en gravité zéro, en apesanteur, et je me dis intuitivement que de toute façon, ça ne me semble pas possible physiologiquement. Alors, est-ce que je suis le seul à me poser la question, et est-ce que les gens, s'il y en a d'autres qui se posent cette question, pensent que ce serait possible?
Vous voulez dire, est-ce qu'on peut faire l'amour et avoir des enfants en s'érogé.
Faire l'amour, James Bond a déjà répondu, je crois, c'était plutôt sur la grossesse, en fait.
D'accord. Qui peut répondre? Vous qui êtes médecin.
Oui, en principe, la gestation en elle-même, c'est, le problème n'est pas ça. Je pense qu'on peut amener une grossesse à terme en apesanteur. Après, le problème, il y a trop de d'interrogations, si vous voulez, sur le fait que le fœtus, il n'a jamais eu de gravité. Et si l'accouchement, évidemment, dans ce cas, dans votre hypothèse, se passe donc en apesanteur, évidemment, l'enfant n'aura pas de normalité, entre guillemets, par rapport à ce qu'on connaît. Puisque, encore une fois, il faut utiliser les fonctions pour qu'elles soient gardées, pour qu'elles soient développées. Donc son vestibule ne va pas se développer correctement. L'aspect tactile non plus, enfin il y a plein de choses donc qui sont liées à l'environnement de la gravité terrestre qui vont mal se passer. Son système cardiovasculaire ne va pas se développer correctement, etc. Donc il sera parfaitement adapté à l'impesanteur, mais pour revenir, il aura d'énormes problèmes. Donc le problème, il est plutôt là. Ça veut dire qu'effectivement, dans ce cas, si vous imaginez donc des missions de très très longue durée, donc sur des générations, ce n'est pas forcément un problème tant qu'on reste dans l'environnement en apesanteur en question. Par contre, si on met les pieds sur une planète, là, ça change tout après.
Bien. Peut-être encore une question.
Je vois okay. Pas très bien. Vous avez pas mal parlé tout à l'heure des problèmes de radiation qu'il faudrait résoudre pour voyager. Et j'ai cru entendre parler de modification d'astronautes. Enfin, est-ce que vous avez des pistes pour résoudre ça, du coup? Comment ça se passerait?
Non, le problème des radiations, c'est effectivement vous allez briser l'ADN ou l'ARN. Hein, et donc là, vous avez ce problème de reconstruction qui aujourd'hui n'est pas maîtrisé. Alors, ça ne sera pas sur une protection, parce que là, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut protéger au niveau des radiations, hormis effectivement faire une enveloppe, mais ce n'est pas une modification génétique de l'astronaute ni de l'humain. Mais si vous voulez aller dans cette piste qui aujourd'hui est extrêmement ouverte et qui est extrêmement éthique en discussion aussi, ce serait déjà, avant de modifier, comprendre les phénomènes de reconstruction suite à une coupure d'un lien, si vous voulez. On sait par exemple sur les bactéries, et ainsi de suite, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que ces mécanismes-là peuvent être facilités, améliorés, déjà compris? Pourquoi pas? On n'est pas du tout sur de la modification, mais déjà de la compréhension.
Je peux peut-être préciser, donc il y a par exemple une bactérie qui s'appelle Radiodurance. Oui, tu connais.
Et
elle peut résister à une explosion nucléaire telle son système de réparation des coupures d'ADN est extrêmement efficient. On a plusieurs systèmes dans notre corps qui vont réparer de l'ADN, soit une base, soit un chromosome même qui est coupé, etc. On est tous différents, comme vous le voyez physiquement, mais physiologiquement on est différents aussi. Même pour ce genre de choses, on est différents. Si vous avez une radiothérapie, vous ou votre voisine, ce sera pas, vous n'aurez pas les mêmes conséquences au niveau d'avoir des risques supplémentaires d'avoir un cancer plus tard à cause des radiations. Donc on peut imaginer effectivement qu'on comprenne un peu mieux ces systèmes de réparation, qu'on regarde ce qui se passe au niveau des bactéries et qu'on clone ou qu'on surexprime simplement des gènes existants pour qu'ils fassent mieux le travail de réparation de l'ADN qui est endommagé. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Bon, c'est de l'augmentation humaine, mais bon, il y a des fins qui justifient peut-être les moyens.
Bien, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je voudrais rappeler, dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne, et puis surtout la série Tu mourras pas bête, voilà, sur Arte. Et puis l'ouvrage de Didier Schmitt, Antéversion, ce qu'il faut retenir du futur. Voilà, à lire et puis à consulter. Merci à tous, merci beaucoup.